Monsieur Richard Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Bonjour.
Vous êtes un homme de radio.
Oui, depuis peu.
Depuis
5 ans.
Ben, comme nous, à peu près.
C'est depuis 5 ans, à peu près. Oui,
depuis ça. Notre retraite, si je comprends bien.
C'est ça, oui. Vous aussi, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Bon, c'est ça. Et donc, vous êtes à la station CKRL de Québec. Vous êtes venu nous voir. Parce que mon attention avait été attirée par un petit bouquin qui porte le titre de votre émission.
Qui porte le titre de mon ancienne émission, Les Petites Misères.
Ancienne émission, alors on va voir ça tantôt. Qui est Richard Sainte-Marie, pour replacer tout
donc,
le monde?
Donc, c'est un retraité de l'Université Laval. J'ai enseigné à l'université pendant 31 ans les arts visuels. Mm-hmm. J'ai commencé par la sculpture, passé par le dessin et à la fin de ma carrière de prof, l'infographie, l'estampe numérique. Et depuis ma retraite, donc, j'écris beaucoup. J'écrivais déjà depuis une quinzaine d'années. J'écris encore plus. Et j'ai fait de la radio depuis 5 ans où j'interview des artistes, des créateurs, en espérant leur poser des questions de créateur lui-même, des questions d'artistes. Je donne beaucoup la parole aux artistes visuels, ce qui est rare à la radio. Hein. On sait que c'est pas très. On dit souvent la peinture, c'est pas radiophonique. Ben nous, on prouve que c'est pas vrai. Actuellement, j'ai une émission, par exemple, qui s'appelle l'Aérospatiale, le mercredi de 3 à 5, 2 heures, 100% art visuel, avec un collègue, Jean-Pierre Gay. On interview des artistes visuels. Tout ce qu'il y a sur les arts plastiques. De 2 heures, on n'en a pas assez. Alors, donc c'est.
Je croyais que la retraite c'était fait pour se reposer.
Ben oui, mais savez-vous, j'ai acheté un agenda quand j'ai commencé ma retraite.
Voilà.
J'en avais pas.
Voilà.
J'étais musicien aussi, ben dans le temps, il y a très longtemps, dans le Cirque du Soleil entre autres, et dans un groupe qui s'appelait la Fanfophonie. Donc j'ai travaillé un peu. J'ai toujours travaillé dans le domaine des arts.
Des arts. Bon, alors pourquoi on va revenir au titre Les Petites Misères? Pourquoi ce titre-là?
Ben au début, j'avais pensé écrire sur les petites misères, c'est-à-dire les fausses idées qui nous rendent malheureux. Par exemple, l'idée qu'il faut être heureux dans la vie, l'idée qu'il faut réussir dans la vie, l'idée qu'il faut être aimé dans la vie, c'est pas absolument nécessaire pour être heureux. Donc, j'ai parti avec cette idée. Et en commençant à faire une série d'émissions, j'ai dit, tiens, je vais prendre mes textes des émissions et faire un Jacques Languirand de moi-même, avec de la musique.
De l'ambition avec ça.
Et j'ai vite vu que mes textes, ben, il fallait que j'en écrive à chaque semaine parce qu'il y avait quand même 32 semaines d'émissions. Donc, j'ai écrit pour la radio. J'ai pensé un jour les publier, donc ça fait à peu près 200 pages. Donc, c'est les textes des émissions, mais aussi des textes qui étaient prévus pour des émissions qui n'ont pas eu lieu. Donc, toutes sortes de sujets,
on va
la
y
censure,
revenir,
etc.
D'abord, dans l'une des premières pages, en exergue, vous citez un monsieur Vienne Blanc.
Lucie de Vienne Blanc, oui.
Oui, une dame, excusez-moi. Oui, ce que vous faites dans ce métier, il s'agit de la radio, vous ouvrez des portes sans pouvoir les refermer. Explication.
C'est Robert Blondin qui me dit, qui la citait. J'avais interviewé Robert il y a quelques années. C'est un de mes modèles, d'ailleurs, en radio, Robert Blondin. Et lui, il disait ça dans son interview, que Lucie de Vienne Blanc donnait, je pense, des cours de diction aux annonceurs de Radio-Canada il y a de ça 30 ans.
Ouh là là!
Et je pense que c'était une comédienne, cette femme.
Oui, elle jouait dans La Pension Velday.
Oui, voilà. Et elle disait ça.
C'est l'avantage d'être vieux, Monsieur Rioux.
Puis l'avantage d'avoir été sur le territoire à l'époque.
Et d'avoir la mémoire, bien sûr.
Et c'est elle qui disait qu'en radio, on ouvre des portes et on ne peut pas les refermer parce que Dieu sait, on s'aime. Mais ce que les gens pensent, ce que les gens en pensent, et ce que les gens font avec ce qui se passe à la radio, ben on n'a pas de contrôle là-dessus, on a fait qu'ouvrir la porte. Voilà. Okay.
Vous nous avez choisi, à mon invitation, des extraits sonores, notamment de vous-même, d'ailleurs.
Oui, tant qu'à faire.
Alors, le premier, c'est « Éducation maternelle ».
Oui.
Quel drôle de titre.
Ben, en fait, oui, hein, c'est rappelle un autre titre, déjà plus célèbre que moi, hein, de Romain Gary. Mais,
je pensais à l'éducation sentimentale de Flaubert.
Non, pas du tout.
C'est une question d'âge.
C'est une question d'âge. C'est tiré d'un livre d'artiste que j'avais fait en 80. C'est mon premier livre, j'ai édité comme éditeur en 86, j'ai fait mon livre à moi. Et donc, j'avais commencé à écrire et mettre des images dans un livre. Ça, c'est un extrait. Et par hasard, j'ai un ami qui est comédien, qui est auteur lui-même, Jean de Ronzier, qui a accepté de lire mes textes. Alors, on a fait, ensemble, on a fait un disque, un CD. On est allé en studio. On a tout fait. J'ai édité ce petit CD.
Un travail artisanal. Voilà. On écoute Éducation maternelle.
Pendant plus de 10 ans, ma mère a gardé à la maison une trentaine d'enfants, la plupart malades, handicapés ou aliénés. Ceux que les autres ne veulent pas, disait-elle. Certains restaient un jour ou deux, d'autres demeuraient pendant des années. Le plus malade est mort à 5 ans dans ma chambre. Paralysé, Jaco n'a jamais marché ni prononcé une seule parole pendant les 5 ans qu'il a vécu chez nous. Il communiquait avec nous autrement. Il faisait des bruits positifs pour « oui » et des bruits négatifs pour « non ». Il pleurait en entendant de la musique en mineur et son plus grand plaisir était de danser dans nos bras. Nous l'aimions comme notre frère. Ma mère avait fait construire une chaise spéciale en contreplaqué vernis avec des positions variables compliquées dans laquelle elle lui faisait prendre l'air. Or, les médicaments qu'il prenait lui faisaient pousser un duvet foncé sur le visage, si bien que les passants se détournaient. J'étais jeune à ce moment et je ne savais si c'était la chaise ou mon petit frère qui les rebutait. Je me rappelle cependant d'avoir été fier d'être dans une famille différente. La compassion, comme une chose naturelle allant de soi, acquise de cette manière d'une mère généreuse et incontournable, est sans doute un héritage précieux, mais ambivalent. L'empathie apporte, il est vrai, sa propre récompense, étant souvent payée en retour par de la sympathie. Mais c'est aussi ce sentiment qui vous porte sans cesse à vous demander « pourquoi chanter quand il y a tant à faire ?» Peut-être est-il plus sage et plus constructif à bien y penser, de se laisser convaincre que chanter, c'est faire, et qu'une chanson peut servir si elle est armée.
Vous écoutez C'est la vie, sur les ondes de Radio Ville-Marie, en compagnie de Jean Carrette et Michel Rioux.
Et de Richard Sainte-Marie, qui comme nous est journaliste bénévole, mais pas à Radio Ville-Marie, à CKRL à Québec. Richard Sainte-Marie, également en exergue, vous citez Pierre Bourgault, il faut dire ce qu'on pense, ça aide les autres à penser.
Oui.
Est-ce que c'est vrai quand on voit le déferlement des médias les plus connus, les plus célèbres et les plus répandus?
Oui, ça reste vrai. Ça reste vrai. Pour moi, c'était un des mobiles pour écrire, justement, parce que Pierre Bourgault, je l'entendais souvent à la radio, comme Denise Bombardier aussi.
Mm-hmm.
Et je me disais, il faut dire ce qu'on pense. Ça m'aide, moi, à penser. Ça me dit, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qu'il vient de dire? Puis un jour, je l'ai entendu dire, il faut dire ce qu'on pense, ça aide les autres à penser. Et c'est lui, il disait ça, sans aucun orgueil. Et moi, je pense humblement que c'est vrai.
OK. Il faut faire réfléchir les gens, il faut donc défoncer les préjugés un peu, vous le disiez tantôt.
Oui. Récemment, je suis allé à la prison de Québec rencontrer des prisonniers qui ont un club de lecture, qui se réunissent puis qui discutent de lecture. Ils ont vu ça dans mon livre. Et tout de suite, la discussion a commencé à cause de cette phrase.
Uh-huh.
Parce qu'eux aussi avaient des choses à dire sur leur vie à eux, sur leur incarcération, sur la vie en dedans, la vie en dehors, la liberté en dedans, la liberté en dehors. Cette petite phrase-là, ben, ça les a fait partir. Et là, on a su autour de la table ce qu'eux pensaient.
Oui, puis je suppose qu'en lisant la deuxième qu'on citait tout à l'heure, vous ouvrez des portes sans pouvoir les refermer.
Et voilà, ouais.
Ils ont dû vous prendre pour un provocateur un petit peu. Est-ce que les préjugés, c'est monnaie courante chez Monsieur Tout-le-Monde?
On en a tous des préjugés.
Oui.
Moi, j'en ai par rapport au métier que j'ai fait depuis 40 ans.
Oui.
J'ai 61 ans, ça fait 40 ans au moins que je travaille dans les arts plastiques. Donc, j'en ai fait des œuvres, j'en ai vu, j'en ai vendu, j'en ai acheté, j'en ai visité partout. Et là, je travaille avec Jean-Pierre Gay, qui est un ex-syndicaliste, qui est un amoureux de l'art, qui n'a aucune formation en art. Donc, on va avoir des expositions ensemble. Et lui, il est des fois entiché d'œuvres que moi, je me dis, ben, c'est quoi, il n'y a rien là, c'est pas intéressant. Puis là, je l'écoute, puis je vois son enthousiasme, puis je me dis, mon Dieu, mais je m'aperçois que moi, j'avais des décisions prises d'avance, ça s'appelle des préjugés, des décisions par rapport à des styles, à des tendances en art, à des formes d'art. Et là, je me dis, ben lui, à côté, là, qui est un homme normal, cultivé normal, comme moi, comme tout le monde, il me fait voir que j'avais décidé avant d'entrer des choses. Alors, donc c'est
je pense que c'est ça, là. Devant une œuvre d'art, de quel ordre qu'elle soit, je pense que le premier geste qui est nécessaire, c'est l'abandon. Il faut s'abandonner, il faut à l'œuvre, sinon il y a une série de barrières qui se font. Puis
c'est ça. Une œuvre d'art, il n'y a pas de communication avec une œuvre d'art, c'est une communion, c'est très différent. Si je vous dis, moi, j'arrive de Cuba. Et je vous ai juste dit, j'arrive de Cuba. Si vous êtes allé à Cuba, vous savez de quoi je parle. Si vous n'y êtes pas allé, vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus. Qu'est-ce que j'ai rien communiqué, mais il va y avoir une communion. Mais les œuvres d'art font ça. Les œuvres d'art servent à ça. Donc, j'ai des morceaux de papier, des morceaux de toile, des mots sur du papier, des gestes qu'on fait, qui aident nos concitoyens à faire un sens de leur vie. On leur donne pas le sens de la vie, mais avec nos outils, ils vont faire un sens.
Il y a un de nos grands essayistes québécois, notre ami Pierre Vadeboncœur, qui a beaucoup écrit sur l'art, sa signification, sa genèse, etc. C'est des livres absolument extraordinaires de ce point de vue.
Je pense également à Botero. J'étais avec mon épouse, qui elle-même est artiste à Québec la semaine dernière. Et elle éclate de rire. Elle a éclaté de rire devant ses tableaux.
Absolument, oui.
Elle connaissait déjà un peu Botero, mais ça a déclenché chez elle.
Et Botero, c'est un bon exemple. Moi, je l'ai interviewé quand il est venu à Québec lors de l'exposition. Et ces grosses sculptures, ces grosses madames, on dirait en chocolat, elles sont en bronze, mais elles ont couleur de chocolat. Ben, quand il passe à côté, il chatouille le menton. Ben, en voulant dire, ceci est une œuvre d'art, mais vous n'avez pas à avoir un respect démesuré, ce n'est que de la matière. Mais cette matière-là, les tableaux, et tout, les sculptures, vous pouvez vous les approprier. Et comme dirait Rilke, aimez-les, c'est comme ça que vous allez être juste avec elles. Aimez-les, saisissez-vous d'elles et donnez un sens à votre vie.
Je trouve ça sympathique, le geste de Botero, parce que vous vous souvenez certainement du geste de Michel-Ange devant son Moïse. Il avait donné un coup de marteau sur le genou tellement il trouvait beau. Il avait dit « parle donc
». Souffle-lui dans le nez, il va parler.
Autrement dit, la création, c'est briser les cadres, c'est ouvrir des portes dans des murs ou dans des préjugés. Ouais. Est-ce que la radio, ça aide à ça aussi?
Ah oui, absolument. Ouais. Moi, au début, j'ai eu le réflexe de faire comme tous ceux qui commencent à faire la radio, c'est-à-dire prendre la parole. J'ai fait ça pendant 2 ans. Jusqu'à temps, je m'aperçois que c'est beaucoup plus intéressant de la donner, la parole.
Okay.
Puis, interviewer les gens, mais vous le savez, plus que moi encore, interviewer les gens, c'est pas poser des questions, c'est les écouter. On questionne avec nos yeux. Et donner la parole, c'est-à-dire donner la chance à quelqu'un qui a quelque chose à dire, de le dire. Donner le moyen, c'est pour ça que je fais maintenant ce métier-là, même si les bénévoles, c'est quand même un métier, qu'on passe 30 heures par semaine, c'est un métier qu'on apprend et qu'on fait, et on donne la parole à des gens qui n'ont pas la chance de la voir.
Est-ce que l'université, quelle qu'elle soit, je précise tout de suite, c'est le meilleur endroit pour former des créateurs?
Non.
Non, hein?
Non. Non, je pense que l'université est utile, mais pas nécessaire.
OK. Mais vous y avez enseigné quand même.
30 ans, oui, 31 ans. Ouais.
Économie familiale oblige, c'est ça?
Non, parce que moi, je crois que c'est utile. Donc, je fais travail utile. Pas, c'est pas nécessaire, mais c'est utile. C'est-à-dire de partager avec des plus jeunes. Moi, je sais comment on fait. Je fais ça comme ça, ça va marcher. Essaie ça, ça va marcher. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ma technique dans l'enseignement, c'était qu'est-ce que tu veux? Prends-tu les bons moyens? Les moyens que tu prends sont les meilleurs? Est-ce que tu pourrais pas essayer ça, voir si ça fait mieux? Puis que veux-tu vraiment? Parce que dans le fond, quand on s'exprime à tout âge, même à 60 ans, quand on prend des matériaux pour s'exprimer, on sait pas toujours d'avance ce qu'on veut dire. Des fois, on se fait aider pour... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça. Donc, c'est ça que je faisais, moi.
Oui, j'aimerais revenir à Québec parce que, donc, en déambulant avec mon épouse la semaine dernière et en voyant tout ce que M. Lallier et tous les autres qui l'entouraient ont fait, je me disais, c'est une belle ville alors que Montréal a des fois des quartiers un peu délaissés. Là aussi, c'est un milieu créatif.
Oui, absolument, oui. M. Lallier, c'est un homme de culture. Avant d'être un homme de politique, avant d'être un homme de gestion municipale. Il y avait une vision.
Mais pour avoir connu le boulevard Charest, par exemple, à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, et ce qu'il est devenu aujourd'hui avec ce magnifique parc que les Québécois eux-mêmes, je pense, n'ont pas encore eu le temps de, de s'approprier, c'est extraordinaire ce qui a été fait là. Mm-hmm. Et il y a une revitalisation économique avec une économie émergente.
Et vous savez ce qui a donné le signal du développement du Saint-Roch qui était abandonné? C'est l'implantation dans Saint-Roch de l'École des arts visuels. Mmh. Nous, on était sur le campus dans l'ancien grand séminaire, puis on a déménagé, on a pris la Dominion Corsette, qui est monument historique.
Le troisième voisin de l'édifice de la CSN, qui a été d'ailleurs rénové là, pour... C'est des implantations comme ça qui ont été géniales et prophétiques, en quelque sorte.
Alors, Richard Sainte-Marie, vous êtes aussi musicien.
Je l'ai été, je joue plus de musique, mais j'ai été pendant 20 ans, au moins 30 ans,
On va vérifier ça avec un morceau qui s'appelle « Funambule ».
C'est la vie sur les ondes de Radio Ville-Marie, en compagnie de Jean Carrette et Michel Rioux.
en compagnie de Richard Sainte-Marie également, qui est, alors je ne sais pas quoi dire, artiste, pianiste, homme de radio, enseignant, etc., etc. Retraité, paraît-il. En fait, vous touchez vos revenus de retraite. Vous n'êtes pas retraité.
Voilà.
Je lisais justement dans les petites misères, puisque vous nous avez fait le plaisir d'amener un morceau de saxo qu'on a écouté tantôt, que à Bruxelles, une gentille dame avait voulu absolument vous faire passer pour un pianiste.
Oui.
Et vous disiez, c'est un peu embêtant, mais c'est l'histoire de ma vie. Je suis toujours passé, j'ai toujours passé pour quelqu'un d'autre. On me prend toujours pour quelqu'un d'autre.
Ouais, ça m'arrive souvent.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, par exemple, j'étais un jour dans un magasin de chaussures. Puis j'attendais, pendant que ma blonde était en train de s'acheter des chaussures, ben quelqu'un m'a pris pour un vendeur. Une fois à l'hôpital, j'entre dans l'ascenseur préoccupé parce que j'allais voir une amie malade. Là, j'avais une petite valise, je sais pas, une espèce de sac avec des pinceaux là-dedans, des tubes, des pinceaux, je sais pas. Et on m'a pris pour un médecin. On prend toujours pour quelqu'un d'autre. Je dis, tant que c'est pas moi qui me prend pour quelqu'un d'autre, ben ça va bien.
Okay. Donc on vous a pris pour un pianiste. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous prenne pour un saxophoniste?
Oui, c'est ce que j'étais, oui, c'est ça. Oui.
Bon, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté pour quelqu'un qui a déjà 40 ans de vie artistique derrière lui? Moi, j'ai une définition, je vais vous la donner.
Ouais.
Je dis la beauté, c'est pas ce qui est beau, ça veut pas dire grand-chose, ça fait pléonasme, c'est ce qui embellit le reste.
ça serait une bonne définition. La beauté, c'est négociable, hein, c'est discutable, c'est pas un absolu. Quoi qu'on en pense, le beau, le bon, le vrai, ben le beau, c'est pas vrai, c'est pas absolu. En fait, la beauté est où on la trouve.
Oui.
J'ai écrit un article dans la revue Notre-Dame, la RND.
Là, oui, les OMI, là.
Maintenant, c'est un organisme
C'était un ordre privé avant qu'il y ait ça.
Oui, historiquement, c'est un ordre, c'est les sœurs de je sais pas quoi.
Ouais.
C'est une très, très, très vieille revue. Hein,
oui,
c'est
oui. Formidable. Très, très bonne, d'ailleurs.
Oui. Ouais. Et j'avais parlé de la beauté. Là, j'avais regardé toutes les facettes de la beauté. Les scarifications, par exemple. Ben c'est dans certaines régions
d'Afrique.
Voilà, pour certains de nos concitoyens planétaires, ben c'est une marque de beauté. Les tatouages, le body piercing. Maintenant, il y a même des déformations. Ils se déforment les oreilles, comme font certaines tribus en Amérique du Sud.
Oui, avec leurs lèvres.
Il y a des ados qui font ça avec leurs oreilles.
Ah, ils se tirent sur les oreilles.
Absolument. Ils s'insèrent des morceaux de plastique. Ils s'étirent ça.
Depuis que les instituteurs ne tirent plus les oreilles, les adolescents se les tirent.
Ben, Musset disait qu'il faut qu'une oreille soit tirée ou.
Oui. Vous dites quelque part dans les misère, j'ai ça sous les yeux, les belles personnes s'est démontré, réussissent mieux dans la vie. C'est démontré, ça?
Oui, c'est démontré.
Oui.
Les personnes belles réussissent mieux à avoir un prêt à la banque, par exemple.
Ah oui?
Les personnes belles ont un meilleur succès dans les entrevues d'emploi.
Plus de chances d'avancement dans le...
Ouais.
Donc, il faut soigner son apparence.
Absolument, oui.
Il faut être son propre artiste, c'est ça?
Oui.
Comment on fait ça?
Il faut émaner, comme on dit, donc, faut qu'on émane quelque chose, faut qu'on ait un aura. C'est ça aussi, la beauté est aussi
parce que
ça.
La beauté est aussi intérieure. Hein?
Exactement, puis elle va transparaître.
Oui.
Mais la beauté, ça change avec les époques, ça change avec les continents. Les canons de beauté à la Renaissance sont pas du tout ceux d'aujourd'hui.
Quand on voit la beauté féminine, par exemple, chez les Flamands du 16e siècle, ça n'a rien à voir avec les jeunes anorexiques qui sont mannequins aujourd'hui. Là.
Ouais. Voyez-vous, les Noires américaines se font faire des implants dans les fesses. Les blanches américaines se font faire des implants dans les seins.
Ah oui?
Ce sont des concitoyens, ils parlent la même langue, ils ont la même, soi-disant, la même culture. En fait, ils sont très différents, des fois, culturellement. Mais, donc, vous voyez que c'est...
Hein? Quand quelqu'un dit, après avoir entendu une phrase, elle est belle, c'est beau, en fait, il veut pas dire que c'est esthétiquement beau et que c'est littéraire. Il veut dire ça
me plaît. Ouais.
Ça fait quelque chose.
Ça m'émeut.
Ça fait vibrer quelque chose. Est-ce que la radio, c'est ça?
La radio, c'est pas ça. La radio, c'est... Je pense que la radio, c'est de prendre la parole. J'avais fait une émission là-dessus où j'interrogeais des gens à savoir qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole. Et là, j'ai eu des...
curieuse expression d'ailleurs, prendre la parole.
Ouais. Et Dany Laferrière me dit justement, prendre la parole, si tu avais vécu en Haïti, tu saurais ce que ça veut dire vraiment, prendre la parole, c'est comme prendre un objet.
Ben oui, moi j'ai assisté à des centaines d'assemblées syndicales, et l'expression prendre la parole prend tout son sens quand on voit quelqu'un arriver au micro ou sans micro, et qui s'empare vraiment de la parole pour exprimer quelque chose qui va faire... qui va provoquer un raz-de-marée dans la salle. Ça, c'est vraiment c'est physique ça. Comme expression.
Puis à la radio, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la radio, parce qu'on nous dit toujours, avec raison, c'est un privilège de faire la radio. Hein? On nous dit ça partout dans les radios communautaires. Radio-Canada, je ne sais pas, mais sans doute aussi. C'est un privilège de prendre la parole. Ça veut dire que je ne sais pas combien vous avez d'auditeurs, entre quelques centaines et quelques milliers. Bon. Mais là, on peut pas déconner, là, on peut pas dire n'importe quoi. On peut pas la dire non plus avec une forme quelconque. Il faut choisir la forme dans laquelle. Mais c'est ma conviction. Il y a d'autres hommes de radio qui ne pensent pas comme ça, bien entendu, mais.
Non, vous en aviez chez vous, là, Jeff Fillon, ben ouais. André Arthur, ouais. etc., ouais.
Mais voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout à l'heure, je disais que vous disiez des méchancetés sur le montréalisme, mais il y aurait, paraît-il, un mystère à Québec à travers justement ces animateurs de radio.
Mais ça fait partie du montréalisme aussi de penser que. Parce que voyez-vous, il y avait Champagne à Chicoutimi, donc c'est pareil. Il y en a sûrement à Montréal, mais on les voit moins parce qu'il y a plus de. Ils sont perdus dans la foule. Quand je parlais du montréalisme, en fait, c'était une émission sur les choses qui m'énervent. Donc, il y avait dans cette émission le défi. Moi, ça m'énerve, le défi. Je ne vois pas la vie comme un défi. Ça m'énerve quelqu'un qui me dit, j'ai accepté ce grand défi. Quelqu'un qui est nommé, par exemple, président d'un syndicat, pour me parler avec Michel Rioux. Quelqu'un qui est nommé président d'un syndicat, il dit, j'accepte ce grand défi. Mais non, mais fais donc ton travail. On t'a choisi parce qu'on pense que t'es bon. Fais-le, puis tu vas avoir le chèque. Alors, bon, puis si t'es pas bon, on va te changer. C'est quoi l'idée d'avertir d'avance les gens que ça va être difficile et ça se peut que je manque mon coup? Mais pas du tout. Et la même chose, il y avait aussi l'expression « tout à fait » dans cette même émission qui m'énerve. Je déteste les gens qui disent « tout à fait » au lieu de dire « oui
hein? ». moi, c'est ceux qui commencent leur réponse par « mais alors là, écoutez
». Écoutez, ouais.
Ce qu'il faut savoir.
Ou les interviewés qui disent « ce qu'il faut savoir ». Ben oui, mais dis-le, on va le savoir. Alors, le montréalisme, ça faisait un peu partie des choses qui m'énervent comme ça.
Vous citez aussi le démographe Jacquard qui dit « La vie a un sens depuis que j'y suis ».
Oui, ça c'est
vrai. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Ouais. Avez-vous un écho à me fournir là-dessus? La vie n'a pas de sens, mais il faut la lui donner. C'est ça que ça veut dire?
Exact. La vie a le sens que je vais lui donner, moi. Parce que la vie n'a pas de sens. Si vous trouvez le sens de la vie, vous êtes un homme extrêmement riche. Dès demain, vous allez publier ou passer à la télévision et ça va bien marcher. La vie, on sait après des millions d'années, puis au moins 40 000 ans de plus proche, que la vie n'a pas de sens. Mais la vie a le sens que moi, je vais lui donner avec les moyens que j'ai. Et c'est dans ce sens-là que Jacquard a tout à fait raison.
Pour terminer, un texte de Richard Sainte-Marie, lu aussi par le comédien.
Oui, lu par Jean de Ronzier. Ce texte-là, je l'ai écrit. En fait, c'est plaisant pour un écrivain, c'est de la réécriture. J'ai pris les textes de très vieux chefs, comme le chef Joseph des Nez Percés dans l'ouest des États-Unis. Il y avait aussi le Chiparopai, Red Jacket, Sitting Bull, des grands chefs.
Okay.
Donc, j'ai pris leurs paroles jusqu'aux récentes paroles des années 90 avec Kenneth Attaqué. Alors, j'ai mélangé ça et j'ai réécrit un texte avec leurs paroles. Donc, une phrase commence il y a 200 ans, puis le dernier mot a été prononcé il y a 10 ans. Donc.
On écoute.
Avant que tu ne viennes... Nous vivions en paix sur la terre de nos ancêtres. Le grand mystérieux avait mis la couverture sous nos pieds. Les poissons dans la rivière qui coule. Les animaux à plumes et à fourrure dans la forêt. Les baies et les herbes parfumées dans la plaine et la montagne. Tout cela était fait pour nous. Il y en avait assez pour tous. Et tu étais le bienvenu. Tu ne voulus d'abord qu'un petit coin de terre, grand comme une peau de bison, pour faire pousser les légumes de ta soupe. J'aurais dû me méfier de toi et découvrir à ce moment la fourberie de ton esprit. J'aurais dû me méfier de celui qui abandonne ses frères et sa femme qui quitte son paradis rempli de pain, de vin et de mille autres avantages pour venir sur la terre des sans-lois et des sans-honneurs se nourrir de morue. Matin, midi et soir, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, il daigne mendier un peu du produit de notre chasse pour s'en régaler. J'aurais dû me méfier des manteaux noirs qui dédaignent nos femmes et qui emprisonnent la parole du grand esprit dans des livres. Notre grand esprit parle par le vent et les arbres, mais l'homme blanc ne sait pas écouter et il n'obéit pas au grand esprit. Il se sert du livre selon ses besoins et lui fait dire ce qui fait son affaire. Tu aurais pu partager avec nous nos chemins et nos vies, nous laisser enseigner à tes fils les secrets de la vie dans les bois. Mais tu as pris le sentier de la pauvreté en voulant posséder pour toi seul des morceaux de la terre de nos ancêtres. J'ai dit, tout ce que tu peux emporter avec toi, prends-le, je te le donne. Mais comment peux-tu imaginer que je puisse vendre la vie des hommes et des animaux? Je ne peux te vendre ce qui ne m'appartient pas. Et malheur à moi si je vends les ossements de mon père. Malheur à moi si je te laisse couper les cheveux de ma mère. Tu ne m'as pas écouté. Tu as planté un piquet et tracé une ligne autour de nous. Tu as affirmé que jamais cette ligne ne serait franchie. Mais il y a longtemps que le piquet a été arraché et que tes robes noires nous ont poursuivis, apportant la mort avec leurs simagrées. Tu as éventré la terre, abattu les arbres, fait exploser les rochers, détourné le chemin des rivières. Partout, tu ne laisses que cicatrices. C'est assez. Je dis, tous les traités ne légitiment ta présence sur nos terres qu'à tes propres yeux. Mais nos pères les ont signés de bonne foi et leur parole est sacrée. Je dis, tant que les rivières couleront dans l'océan, nous ne pourrons céder nos droits si cela ne sert qu'à nous anéantir. Les papiers fanent et les paroles sont emportées par le vent, mais la terre demeure et elle nous a toujours appartenu. Les esprits de nos ancêtres vivent à Kanesatake, ne les réveille pas. J'ai parlé.
Alors, merci Richard Sainte-Marie, quel beau texte, tellement évocateur, et en particulier dans cette période politiquement interrogante, interpellante.